Avant de commencer cette discussion, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du comité des cafés scientifiques. Je suis le coordinateur Igor Chlebny, je travaille pour le bureau presse et promotion de l'Université de Neuchâtel et j'ai le plaisir ce soir donc d'accueillir nos invités pour évoquer cet anniversaire dans l'enceinte de l'Université de Neuchâtel pour parler de ce qui s'est passé au niveau de Neuchâtelois et de voir les échos qu'ont eu ces différents témoins, qui ont pour certains d'entre eux été carrément des témoins oculaires des événements, et d'avoir aussi un regard contemporain par rapport à mai 68. Alors bienvenue à tous, je voudrais remercier d'abord Claudine Assad d'avoir organisé cet événement au milieu d'une myriade d'autres événements tout ce mois de mai dans le canton. Et aussi remercier M. Patrick Ferla d'assurer cette modération. Et je vous souhaite un grand plaisir durant cette discussion.
Eh bien, merci à vous. Bonsoir d'abord. Merci d'être venus si nombreux pour évoquer 50 ans plus tard, donc mai 68. Je suis ravi de vous accueillir pour cette rencontre intitulée « Mai 68, vue des pavés neuchâtelois ». Merci à Claudine Assad qui l'a organisé et donc à Igor Chlebny que vous venez d'entendre. Alors avant de donner la parole dans un premier temps aux invités de ce café scientifique, puis à vous toutes et à vous tous, ce bref rappel de quelques événements qui m'ont marqué, vous le savez, cette année-là, c'est une année de très grands bouleversements un peu partout sur la planète. Alors j'en ai retenu quelques-uns sur lesquels nous reviendrons peut-être. D'abord en Tchécoslovaquie, en février 68, c'est le début du printemps de Prague et son écrasement les 20 et 21 août. Et quelques mois plus tard, le 16 janvier 69, Jan Palach s'immole par le feu sur la place Venceslas. Le 15 mars 68, et ça me paraît important de le rappeler, dans les colonnes du Monde, cet extrait de Pierre Viançon-Ponté, c'est un long article qu'il avait écrit sous le titre « Quand la France s'ennuie ». Je vous en donne un bref extrait. Dans une petite France presque réduite à l'hexagone, qui n'est pas vraiment malheureuse, ni vraiment prospère, en paix avec tout le monde, sans grande prise sur les événements mondiaux, l'ardeur et l'imagination sont aussi nécessaires que le bien-être et l'expansion. Ce n'est certes pas facile. L'impératif vaut d'ailleurs pour l'opposition autant que pour le pouvoir. S'il n'est pas satisfait, poursuit-il, l'anesthésie risque de provoquer la consomption et à la limite, cela s'est vu, un pays peut aussi périr d'ennui. Fin de citation. Le 22 mars, comme vous le savez, c'est la naissance à Nanterre du mouvement du 22 mars. Pour aller vite, c'est un mouvement d'inspiration libertaire, anarchiste, anti-autoritaire, opposé à la guerre du Vietnam. Et petit détail, parmi les revendications au plan de la vie quotidienne, la possibilité pour les garçons d'aller dans les chambres des filles de la résidence universitaire, 3 points de suspension. Aux États-Unis, le 4 avril à Memphis, c'est donc l'assassinat de Martin Luther King. Et là, je reviens à Paris après la nuit des barricades. Le 14 mai, occupation du théâtre de l'Odéon. Et alors là, on revient tout de suite à Neuchâtel avec une manifestation dans les rues de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds la veille. Des étudiants créent le comité d'action pour la réforme universitaire. Ce comité fait sa première apparition le 28 mai en distribuant un tract qui sera saisi et un tract qui critique la structure de l'université et de son enseignement. En mai-juin, c'est la poursuite donc des événements à Paris d'une part, mais également à Tokyo. Et en juin, à Zurich, des manifestations violentes pour la création d'un centre autonome. Au mois d'août de la même année, affrontement à Chicago entre des étudiants et policiers lors de la convention du Parti démocrate, des étudiants américains qui s'insurgent, vous l'avez deviné, contre la guerre du Vietnam et remettent en cause le modèle de vie américain. Par ailleurs, mouvement de libération de la femme, toujours aux États-Unis, manifestation des radical women contre l'élection de Miss Amérique. Enfin, au Mexique, qui s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques, le président Díaz-Ordaz, qui ne supporte pas visiblement que son autoritarisme grandissant soit mis en cause par des étudiants qui réclament plus de liberté. Sur la place des Trois Cultures à Mexico, le 2 octobre 68, l'armée tire à balles réelles sur une foule de plus de 10 000 étudiants. 300 manifestants sont tués et des milliers d'autres blessés. Retour en France pour signaler que dès le 22 mars, les murs parlent un peu partout, d'abord à Paris et dans d'autres villes de l'Hexagone. Un certain nombre de slogans, on a tous en mémoire certains d'entre eux. Il est interdit d'interdire, soyez réaliste, demandez l'impossible et jouir sans entrave. Ces événements qui touchent le mouvement estudiantin puis ouvrier constituent le plus important mouvement social de l'histoire de France du XXe siècle. Il s'agit donc d'une révolte suivie d'affrontements et de grèves spontanées, anti-autoritaires, de nature à la fois culturelle, sociale et politique, dirigée contre le capitalisme, le consumérisme, l'impérialisme américain et contre aussi le pouvoir gaulliste en place. On va rappeler aussi que ces affrontements ont provoqué la mort d'au moins 7 personnes et en fait des centaines de blessés graves. J'ai bientôt terminé, je donne la parole à nos invités dans une seconde. Le temps de vous rappeler que le général de Gaulle est au pouvoir depuis 10 ans, il a 78 ans. Il prend tardivement conscience de ce qui se joue. Du 14 au 18 mai, par exemple, il est en visite officielle en Roumanie. Et c'est Georges Pompidou qui sera seul sur tous les fronts. Je vous évite les dates clés du mois de mai à Paris, qui commence avec la nuit des barricades, les 10 et 11 mai. Je signerai simplement peut-être, d'une part, la fin anticipée du Festival de Cannes, puisque le festival se déroule actuellement, et cette intervention célèbre dorénavant de Jean-Luc Godard le 17 mai. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers. Vous me parlez de travelling et de gros plans. Vous êtes des cons. Fin de citation. Le 31 mai, il y a 10 millions de grévistes en France. Un arrêté d'expulsion contre Daniel Cohn-Bendit. Le 27 mai, les accords de Grenelle, ça c'est des accords qui sont importants puisque le salaire minimum est augmenté de 35% et les salaires sont augmentés d'environ 10%. Et puis le 29 mai, la disparition, elle retrouve d'ailleurs assez rapidement du général de Gaulle qui a rendu visite à Baden-Baden au quartier général des forces françaises en Allemagne. Et enfin, le 30 mai, 1 million de manifestants gaullistes sur les Champs-Élysées. Je terminerai par cette citation empruntée à un livre du sociologue Alain Touraine qui enseignait à l'Université de Nanterre. C'est un livre paru en été 68 sous le titre « Le mouvement de mai ou le communisme utopique ». Alain Touraine souligne, je le cite, que les événements de mai 68 sont liés à la transformation en cours de la société sous l'effet du progrès technique, le pouvoir technocratique tend, écrit-il, à imposer ses impératifs à toutes les dimensions de la vie, y compris celle de l'intime. C'est contre ce nouveau système de domination que s'est érigé le mouvement de mai, manifestant ainsi l'entrée de la culture dans le champ politique. Le mot d'ordre à l'époque des technocrates qui dirigent la société est « adaptez-vous ». Le mouvement de mai a répondu « Exprime-toi », ce que vont faire maintenant les invités de ce débat. Merci de vous présenter d'une part et pour un premier tour de table de dire en un mot, en quelques expressions, ce que représente ou ce que représentait à l'époque pour vous mai 68. On commence tout de suite avec vous, monsieur Stély.
Ça marche.
Ça marche, oui.
J'ai fait une maturité grec-latin. C'était ce qu'on appelle les humanités. Je crois qu'on les appelle encore toujours comme ça. Et puis, mes préoccupations, c'était de savoir comment le beau et le bien pouvaient se rejoindre. Après ma maturité, j'ai fait 8 mois de chantier. Et j'ai découvert une réalité fort différente. Je ne vous la décris pas parce que je pense que vous êtes capable de l'imaginer. Je suis venu à l'université, je me suis inscrit en philosophie, en littérature et en psychologie parce que je voulais comprendre comment l'humanité advient et devient. Et tout d'un coup, bien qu'il y ait eu des prémices, comme cela a été dit, les murs à Paris ont fleuri, ont commencé à parler. La beauté était dans la rue. Et je suis l'étudiant qui est allé à la manifestation avec une pancarte blanche pour que chacun puisse mettre sa pensée ou son slogan. Les organisateurs m'ont mis tout derrière, de telle sorte que la manifestation se terminait par une pancarte blanche, la mienne. Ce qui prouve que le mouvement était quand même assez divers. Ensuite, j'ai enseigné à la Chaux-de-Fonds philosophie et littérature, et j'offrais toujours à mes étudiants des petites pancartes blanches pour qu'ils puissent inscrire leurs pensées. Et ensuite, on les analysait, parce que c'est bien de dire ce que l'on pense, mais c'est aussi très bien de penser ce que l'on dit. Je vous remercie.
Mais si vous deviez, juste un mot, si vous deviez qualifier d'un mot, d'une expression, les événements de mai 68, quelle serait cette expression ou ce mot ?
Ben, il y en a trois.
Allons-y pour trois.
C'était existentiel, poétique et politique.
Merci. Monsieur Béguin.
Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Je remercie les organisateurs d'avoir réuni les anciens combattants de mai 68, parce que je vois qu'il y a tous ceux qui étaient engagés d'un côté et ceux qui étaient engagés de l'autre. Je ne vois pas énormément de représentants de la jeune génération, il y en a quelques-uns ou quelques-unes, mais j'ai l'impression que c'est un peu un entre-soi ce soir. Bien. Alors moi aussi, j'ai fait un bac au gymnase de la Chaux-de-Fonds et je suis allé étudier à Paris, après mon école de recrue.
Comme votre père, d'ailleurs, je crois.
Comme mon père, voilà, c'est une tradition familiale. Et j'arrive à Paris en novembre 67. Je n'étais pas à la Sorbonne, j'étais dans une université libre, comme on dit en France, à l'Institut catholique à la rue d'Assas. Je faisais des lettres. Et j'habitais dans une cité universitaire à Antony, au sud de Paris. 3000 étudiants. Et je dois dire qu'il y avait un contraste assez saisissant entre le calme de l'Institut catholique, où nous étions peu d'étudiants et où tout se passait de manière très civile, et ce chaudron qu'était la cité universitaire d'Antony, où il y avait des manifestations à peu près tous les jours, des banderoles appelant à la révolte, à la révolution, etc. Donc ça, c'était avant le mois de mai. Donc, hein. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait, une insatisfaction, des frustrations. Et il y avait des étudiants de tous les âges et de toutes les couleurs et qui organisaient des grands méchoués dans les couloirs. Enfin, c'était très, très particulier. Et je me disais, mais tout ça, un jour, ça va exploser. Bon. Et puis un jour, j'écoutais dans ma chambre d'étudiant, j'écoutais Europe 1. Parce que si on voulait avoir vraiment des nouvelles, il ne fallait pas écouter l'ORTF, parce que l'ORTF, c'était complètement dominé par le pouvoir gaulliste à l'époque. C'était la voix de la France, comme disait Pompidou. Si on voulait savoir un peu ce qui se passait, il fallait écouter les radios privées, RTL, Europe 1, etc. Et c'est là que j'apprends un soir qu'il y a eu des échauffourées au quartier latin, qu'on a scié des arbres, arraché des grilles, enlevé des pavés, incendié des voitures et tout. Bon. Le lendemain, je prends mon train pour aller à Paris, à Haucourt. J'arrive gare du Luxembourg, je sors. Je pensais aller au petit café où j'avais l'habitude de prendre mon petit déjeuner. Et voilà que je vois un spectacle d'apocalypse. Les pavés, plus de pavés. Sous les pavés, la plage, hein, ça c'était clair. Des arbres abattus, des voitures fracassées, mon petit bar incendié. Enfin, on avait l'impression qu'il y avait eu un bombardement, un état de guerre. C'était un choc, même si j'avais entendu la radio, mais de voir ça concrètement, ça a été un choc. Donc, j'ai vécu les événements là-bas. Je ne les ai pas vécus à Neuchâtel, donc je ne vous dirai pas grand-chose de ce qui s'est passé à Neuchâtel, puisque j'étais à Paris. Inutile de vous dire que je n'étais pas du tout en phase avec ce mouvement de révolte, parce que moi, j'étais plutôt de tempérament conservateur, par mon éducation, par mes gènes. J'étais tout à fait favorable au régime gaulliste, même si on sentait qu'il y avait une certaine pétrification du régime, un autoritarisme dans un peu tous les domaines, etc. On aspirait tous à un petit peu plus de liberté. Mais ce déchaînement de violence tel que je l'ai vu ne me convenait absolument pas et je ne me suis pas du tout mêlé aux manifestations, sinon pour les regarder à titre spectateur. J'ai même participé à des défilés contre de soutien au gouvernement avant le 30 mai. Et je dois dire que ça m'a laissé un sentiment assez amer, à tel point que en mai 68, j'aurais théoriquement dû passer mes premiers examens, qui ont été annulés parce qu'on devait les passer à la Sorbonne, et la Sorbonne était occupée. Donc, je me suis retrouvé là. En plus, après la révolte étudiante, il y a eu le mouvement de grève, parce que le Parti communiste et la CGT, au début, regardaient ça d'un œil assez méfiant. Puis quand ils ont vu que les étudiants étaient capables d'ébranler le régime, ils se sont dit, ben, pourquoi pas en profiter? Mais il y a eu un immense malentendu, c'est que les étudiants globalement contestaient la société de consommation, tandis que les ouvriers, eux, ils souhaitaient profiter plus de la société de consommation. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient qu'on répartisse mieux les bénéfices de la croissance. Ce qui fait qu'il y a une grève générale, mais vraiment, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus d'essence. Je me suis retrouvé complètement coincé, sans argent, à ne plus savoir que faire à Paris. Finalement, j'ai, grâce à l'ambassade de Suisse, pu rentrer en Suisse avec le dernier car qui partait de Paris pour aller à Genève. Je suis rentré en Suisse et j'ai décidé d'y rester. Je suis revenu au Bercail et j'ai changé d'orientation. J'ai fait du droit. Donc, je n'ai pas assisté aux événements de 68 à Neuchâtel, mais j'ai participé d'une certaine manière à ce qui a suivi, puisque à la suite du mouvement étudiant neuchâtelois, le Conseil d'État, sous l'impulsion de François Jeanneret, que je salue ici, a proposé au Grand Conseil une révision de la loi sur l'université qui allait un petit peu dans le sens de ce qui était réclamé, mais de manière raisonnable et pondérée, ce qui était jugé nettement insuffisant par les étudiants plus ou moins révolutionnaires. Et cette loi qui a été votée par le Grand Conseil a été frappée d'un référendum et il y a eu une campagne référendaire en 1971. Et là, avec quelques camarades que je reconnais ici, nous avons soutenu cette loi et nous étions en opposition avec ceux qui la combattaient. Et puis ensuite, comme je me suis toujours intéressé à la politique, j'ai milité au sein du Parti radical, j'ai fini mes études de droit, j'ai fait mon brevet d'avocat, ensuite j'ai bifurqué dans la magistrature judiciaire pour devenir juge d'instruction, puis procureur général. Et finalement, je me suis présenté au Conseil des États, où j'ai été élu, puis au Conseil d'État. Voilà, alors pour vous dire que ma fibre conservatrice et gaulliste a fait que je n'ai pas du tout adhéré à l'enthousiasme des 68ards. J'en ai beaucoup connu, j'avais beaucoup d'amis, mais j'ai constaté que la plupart de mes amis avaient passé du Colmao au Rotary Club.
Si vous deviez, Monsieur Béguin, si vous deviez d'un mot qualifier ces événements, quel mot choisiriez-vous?
Alors, je reprendrai la formule de Jean-Louis Debré, une révolte inutile, mais importante.
Merci, on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Miéville, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Le hasard des naissances m'a fait traverser le lycée de la Chaux-de-Fonds, où ma découverte à travers des professeurs comme Taillard est en fait le rapport à la connaissance, l'épistémologie, la gnoséologie. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, j'ai toujours été attiré par cette perspective. Et le lieu où elle pouvait se manifester, se découvrir ou se déployer, c'était effectivement l'université. Donc rapidement, c'est donc vers des études universitaires de scientifiques que j'ai choisi d'effectuer. En même temps, à travers, je crois, ma vie à la Chaux-de-Fonds, un frère très engagé au niveau politique, et puis aussi à travers le service militaire que j'ai fait, il a été utile en quelque sorte sur un point, j'ai découvert la notion de classe sociale, et j'ai été très frappé par cela. Ensuite, je suis rentré à l'université, d'abord à l'école polytechnique qui s'appelait l'EPUL à Lausanne, puis à Neuchâtel. Et là, par rapport à ma soif, ma passion par rapport à la connaissance, j'avoue avoir été frustré par rapport à une attitude de certains professeurs, pas tous bien sûr, mais trop nombreux encore, par rapport à un certain mépris que je sentais, par rapport aux questions qu'on posait, par rapport à la liberté de questionner qu'on avait envie de déployer. Et tout cela dans une perspective pré-68 art, dans les situations que M. Ferlin vient d'évoquer tout à l'heure, un tumulte mondial qui était assez pertinent. Nous avons participé à des manifestations par rapport à la guerre du Vietnam, etc. Donc nous avions un engagement très fort, une volonté très forte, peut-être aussi d'avoir plus de justice et moins d'inégalité. On parlait beaucoup d'égalité homme-femme. On voit aujourd'hui qu'elle est réalisée. C'est merveilleux. Et j'avoue qu'il y aurait eu des personnalités qui auraient pu être présentes ce soir. Ceci dit, j'avais donc une propension à une réaction négative contre l'institution dans laquelle je vivais et par rapport à laquelle j'aspirais obtenir des réponses par rapport à mes passions. Je ne les ai pas eues tout de suite. Bon, 68 est arrivé, les vibrations parisiennes sont arrivées à Neuchâtel avec moins de violence que celle évoquée par Thierry Béguin. J'y ai participé de manière très active. Je n'ai toujours pas adhéré au Rotary Club. Il m'arrive parfois en été surtout d'avoir un colmao. Et je me suis opposé à un ami qui est M. Béguin, qui est devenu un ami par la suite. Et c'est vrai que 68 était un moment étonnant, pas inutile, je ne le crois pas. Je pense que Debré se trompe. Je pense que Morin se trompe aussi. Ce n'était pas une extase historique, comme il le dit. C'était un moment très, très fort où nous voulions briser des barrières. Nous ne voulions pas prendre le pouvoir, contrairement à ce que certains politiciens pensaient. Nous voulions simplement briser des inégalités, briser, avoir des ouvertures plus grandes, avoir des dialogues plus grands avec certains de nos professeurs. Par rapport au monde universitaire, je pense que dans la perspective ouvrière, c'était différent. Donc, nous étions dans une période où j'étais de ceux qui pensaient que tout était possible. Enfin, on pouvait, pas révolutionner, mais modifier les choses de manière plutôt positive par rapport à nos perspectives. En fait, peut-être certains espoirs ont été déçus. Il y a eu un certain nombre de modifications. Elles ont été extrêmement lentes. Et j'ai toujours pensé nécessaire d'agir dans le cadre universitaire pour pouvoir obtenir ce que je pensais avoir vécu dans le cadre de mai 68. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai combattu mon ami Béguin en 71. Je suis devenu président des étudiants et nous trouvions pas totalement inutile la loi de 71, au contraire. Simplement, elle n'allait pour nous pas assez loin. Il n'y avait pas autant de gestion. Je me souviens toujours à cette période. Il y avait un recteur que j'appréciais beaucoup, qui s'appelait, que j'appréciais pas en tant que recteur, mais beaucoup en tant que scientifique, c'était M. Sørensen, feu M. Sørensen. Et je me souviens lui avoir posé une question une fois, en lui demandant s'il nous demandait de prendre position par rapport à un certain point politique lié à l'Université de Neuchâtel, au déploiement de cette loi. Et je me souviens de sa réponse. Quand je lui ai posé la question, Monsieur le recteur, est-ce que la votation que nous allons faire est-elle décisionnelle ou simplement indicative ? Mais Miéville, dit-il, le jour où un étudiant aura voix à une décision, je quitterai l'université. Voilà la réponse en 71. Donc, Donc nous avons continué de lutter, et en luttant et en continuant de lutter, un jour, peut-être par hasard, je suis devenu recteur. Le mot par rapport à 1968,
oui,
c'est un enthousiasme fabuleux par rapport aux perspectives de modification qu'on pensait opérer. Vraiment, on avait ce sentiment d'être des acteurs du changement.
Je vous remercie. À vous maintenant, Yvan Ordaz-Criado.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis également issu de l'éducation neuchâteloise, puisque j'ai fait mon lycée au Denis de Rougemont en option spécifique philo et option complémentaire économie et droit, pour ceux qui connaissent le nouveau jargon. Après, j'ai poursuivi mes études d'abord en fait à Genève en relations internationales et ensuite ici à l'université de Neuchâtel dans la faculté de droit. Je suis ici, comme vous pouvez l'imaginer, pas comme témoin de 68, puisque nous avons bien assez de personnalités qui peuvent en parler. Je suis plutôt témoin en fait de ce qui a pu se passer après. Donc, juste pour vous contextualiser, dès mes études à Genève, en fait, j'ai fait partie de l'association des étudiants en sciences politiques et relations internationales, où j'ai commencé mon engagement en fait suite à une décision du rectorat qui était celle d'inclure ce que à Neuchâtel on appelle la police des habitants, à Genève l'office cantonal de la population. Donc le rectorat avait invité cet office en fait à participer au processus d'admission des étudiants étrangers. Donc l'université ouvrait ses portes à ce que l'autorité veille au statut juridique des personnes qui s'inscrivaient à l'université. Personnellement, je considérais que ce n'était pas nécessairement le rôle de l'université d'offrir cette possibilité-là. Et voilà, par la suite, j'ai été engagé du coup à Genève sur cette base-là. Ensuite, à Neuchâtel, j'ai intégré la FEN, la Fédération des étudiants neuchâtelois, que j'ai présidée. J'ai quitté Neuchâtel pour Berne, en fait, puisque je suis rentré au comité de direction de l'Union des étudiants de Suisse, organisation dans laquelle j'ai été lors de la votation sur l'initiative sur les bourses d'études, pour donc une votation qui a eu lieu en 2015, où on a participé, j'ai participé dans la communication au niveau roman et aussi au sein du comité d'initiative. J'ai quitté Berne, j'ai fait une petite pause, je suis revenu à Neuchâtel, j'ai fait un deuxième mandat au sein de la Fédération des étudiants neuchâtelois que j'ai quitté en fait au mois de mars, où là j'ai été responsable en fait du logement étudiantin. Donc je ne sais pas si vous connaissez la société Alphen-SA, qui est une société anonyme à but non lucratif qui appartient à 98% à la FEN et qui gère une bonne partie du logement étudiantin dans l'actualité. Donc pour moi, mai 68, c'est pas un souvenir, c'est plutôt quelque chose que je vois à travers que j'ai pu vivre à travers les livres, à travers les témoignages que j'ai écoutés ce soir. C'est un mouvement qui, à titre personnel, en fait, m'inspire une certaine. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un peu unisson. Ça a été un temps social fort où les étudiants ont pu finalement collaborer avec d'autres secteurs de la société à justement faire évoluer les choses, à faire briser peut-être certaines barrières, certains tabous, certaines limites. Et je pense que l'engagement du coup que j'ai pu avoir en fait au cours des 10 dernières années, puisque j'ai commencé mon engagement associatif en 2008 pour le terminer en 2018, c'est de remercier les gens qui ont été là à cette époque, parce que je crois que même s'il y a encore beaucoup de choses à l'époque actuelle qui peuvent faire l'objet d'améliorations, de réformes, il y a quand même un cadre de travail et une communication, un dialogue avec les autorités, aussi dans l'institutionnalisation, qui permet quand même que le travail soit peut-être justement moins conflictuel, qu'on ait moins besoin d'aller dans la rue et puis de se manifester, qu'on n'ait pas peut-être besoin d'utiliser certaines formes plus radicales pour obtenir un certain nombre de choses. Néanmoins, ce qu'on peut regretter, c'est peut-être que cette institutionnalisation cache un peu les enjeux et ne permet peut-être plus de fédérer autant les étudiants sur un certain nombre de problématiques qui les concernent pourtant de manière directe. Étudiants et étudiantes, bien évidemment. Désolé, je parle au masculin par facilité.
Merci, monsieur Laurent Tissot.
Oui, bonsoir. Alors, j'avais 15 ans. J'étais au collège Saint-Michel à Fribourg et j'ai vu quand même quelqu'un qui a lancé une pierre contre l'internat du collège Saint-Michel, et c'était monsieur Vasella, qui est devenu plus tard président de Novartis. Alors lui aussi a changé de colle. Mais je voudrais... Alors là, je suis plutôt un regard d'historien que je vais porter. Et je voudrais peut-être vous demander ce que mai 68 m'inspire. Je vais reprendre une formule qui a paru en Allemagne en 68. Je vais la dire en allemand et je vais la traduire ensuite en français. Trau keinem über 30. Ne faites confiance à personne qui a plus de 30 ans. Et pour moi, c'est important parce que mai 68, c'est surtout la prise de parole d'une génération. Et peut-être pour un historien, c'est le fait que le paramètre générationnel est important dans la lecture que nous avons de l'histoire. Et c'est peut-être un paramètre qui n'est pas suffisamment pris en compte dans toute analyse. C'est-à-dire que l'âge, la génération, le fait d'être partie d'une génération qui apporte un regard nouveau sur la société, sur la façon dont on fonctionne, pour moi, est l'élément important dans mai 68. C'est, alors, bien sûr que c'était un regard multiple, varié, il n'y a pas un mai 68, il y a des prises de parole diverses, variées, contradictoires, mais c'était une parole qui venait d'une génération. Et pour moi, c'est un élément qui est important en tant qu'historien. Et dans mon travail d'historien, on doit porter plus de regard sur cela, c'est-à-dire comment une génération prend la parole, post-adolescente, ou, bon, j'avais 15 ans, c'est pré-adolescente ou adolescente, mais comment ces gens-là s'expriment et disent des choses. Alors, peut-être que cette prise de parole est maintenant différente de celle qu'on avait à mai 68, au niveau culturel, au niveau artistique, il y a des prises de parole qui sont différentes, il y a moins peut-être d'idéologie, mais nous devons tenir compte de ça, et peut-être c'est le grand enseignement que mai 68 m'a donné. En tant que... voulant faire de l'histoire et voulant faire historien un métier, et j'ai eu la chance de le faire, et c'est un élément essentiel. On peut être pour ou contre mai 68, pour moi ça n'a aucun intérêt. C'était un événement qui a eu des impacts, dont on peut discuter la pertinence et la force, mais le fait qu'on soit là aujourd'hui à fêter le cinquantenaire montre que c'est encore présent dans les esprits de tout un chacun, en tout cas de beaucoup de monde, et la flopée de livres qui apparaissent sur mai 68 montre que, voilà, on est quand même pris à un moment donné par ce qui s'est passé. Est-ce que on peut faire un raisonnement contrefactuel. Est-ce que finalement cet événement n'aurait pas pu se passer? On peut se poser la question. C'est quand même des petites étincelles tout d'un coup qui mettent un feu à la baraque. Donc l'événement n'aurait pas pu se passer. Il s'est passé. Et donc peut-être qu'il y avait de bonnes raisons que ça se passe comme cela. Mais l'élément, et je le répète, c'est l'élément générationnel qui est pour moi, pas déterminant, mais important.
Qu'ont changé dans votre vie de tous les jours ces événements, je veux dire, dans l'appréhension que vous avez des affaires du monde?
Pour moi?
Pour vous, oui, pour vous.
Alors, il y a plusieurs...
Dans la manière d'appréhender l'actualité, oui. Le monde, la société.
Oui, disons que, peut-être c'est paradoxal, on peut estimer que mai 68 n'a eu aucun impact. Aucun impact. Il a fallu attendre quand même 30-40 ans pour avoir une égalité entre hommes et femmes, et encore, il n'est pas réalisé au niveau salarial. Au niveau des grands rêves utopiques d'une paix dans le monde, mon œil, depuis 68, il y en a eu des morts. Il y en a encore aujourd'hui, donc il n'y a eu aucun impact là-dessus. Sur la question de l'autorité, nous ne vivons pas dans une société sans autorité. Et en tant que professeur ici à l'université, je me pose la question, mais pourquoi les étudiants ne me contestent pas? Et encore cet après-midi, j'étais surpris d'entendre, j'avais un séminaire avec des bachelors, et on a prononcé le nom de Jean Sigler. Parce que, il y avait un texte qui parlait de lui, j'ai dit, mais qui connaît Jean Sigler? Il y a une petite main qui s'élevait très modestement, et c'était encore pas très sûr. Donc, voilà. Et si Ziegler a joué un rôle important, c'est bien lui. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui montrent que mai 68 n'a eu aucun impact sur le déroulement du monde. Mais d'un autre côté, il faut dire que peut-être ces manifestations contre le Vietnam, ces manifestations de voir des actions autonomes, alternatives, elles sont encore peut-être issues de mai 68 et que nous raisonnons encore en fonction de savoir qu'il est possible d'avoir autre chose que ce que nous proposons. Et dans nos visions du monde, on se pose cette question. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est la seule façon de voir le chose ? Est-ce que peut-être le monde aurait pu être autrement ? Et donc là, bien sûr, on part à un niveau différent. Et dans mon métier de professeur, oui, je suis directement... indirectement, en tout cas indirectement influencé par mai 68, et ça reste là, parce que comme historien, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'imaginer un autre monde, et peut-être que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, les Palestiniens peut-être pensent comme cela, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de vivre dans un autre monde où peut-être on n'est pas un avenir bouché, donc c'est une question omniprésente que mai 68 peut-être a pu faire ressortir à sa façon, et avec les paroles et avec les écrits, avec la conception d'une génération qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'avait pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais qui peut-être interrogeait un monde qui semblait devenir plus parfait, mais qui peut-être posait ce problème entre, et c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être d'une possibilité de vivre individuellement, et c'était le cas en tout cas dans les Trente Glorieuses, librement, d'être assommé d'une publicité qui me dit « je suis libre, tu peux acheter une voiture, tu peux acheter un aspirateur, tu peux acheter n'importe quoi, tu peux aller à Bali pour 500 balles, tu peux aller à Barcelone pour 3 francs, tu peux faire n'importe quoi » et en même temps peut-être des restrictions au niveau politique qui empêchent peut-être d'agir. Et c'est peut-être ce paradoxe entre cette liberté économique qu'on nous fait penser, à laquelle on nous fait croire, et peut-être un glacis politique idéologique qui nous empêche peut-être d'agir. Et bien sûr, dans les Trente Glorieuses, c'était la guerre froide. Donc là, le problème se posait clairement.
Monsieur Béguin, comment recevez-vous les propos de Laurent Tissot, enfin de l'historien ?
J'ai le droit de paraître. Mais il y a des choses avec lesquelles je peux tout à fait être d'accord. Moi, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis un homme de droite, par conséquent, je suis un pessimiste. Je ne crois pas qu'une révolte ou qu'une révolution puisse faire le bonheur de l'humanité. Et je pense que souvent, ça amène beaucoup plus de choses négatives que de choses positives. Et je trouve quand même assez piquant que le grand leader de mai 68, Daniel Cohn-Bendit, qui est un homme pour qui j'ai de l'admiration et même de la tendresse, c'est un des plus grand turiféraire de M. Macron, qui représente l'élite mondialisée, qui représente le summum de la technocratie dans son gouvernement et qui est qualifié par M. Onfray de poupée gonflable du capitalisme. Alors, faire mai 68 pour ensuite devenir macronien, je trouve que c'est un peu étrange.
Mais est-ce que ces événements, cette période, ces années 68 que j'ai évoquées tout à l'heure, je pose la même question qu'à M. Tissot tout à l'heure, ont modifié votre manière d'appréhender le monde et finalement le vôtre aussi, évidemment ?
Personnellement, je ne crois pas. Je reconnais qu'il y a eu des conséquences positives. Et c'est ce que Debré disait en disant il y a eu des choses importantes. Dans le positif, c'est vrai, l'idée de l'égalité a fait des progrès. Je pense que le mouvement écologique est une des conséquences de mai 68. Les frères jumeaux de mai 68, des jumeaux hétérozygotes, c'est le mouvement écologiste avec toutes ses nuances, des Funda au Realo en passant par toutes les nuances. Et puis, de l'autre côté, c'est la radicalité de la liberté dans l'économie, le libertarisme. On fait sauter toutes les contraintes
pour arriver à un capitalisme sauvage. C'est ça, les deux héritages de mai 68, pour moi.
Mais c'est ce que ne voulaient pas, sur le fond, les manifestants dans un premier temps.
Ah, mais vous savez, dans l'histoire, souvent, ce qui arrive ne correspond pas du tout à ce que souhaitaient les gens qui ont agi.
Ouais. C'était comment, à Neuchâtel, les manifestations à Neuchâtel, le 14 ou le 15 mai quelle atmosphère à Neuchâtel? Peut-être M. Mieville, M. Stelly aussi, qui les ont vécues. À quoi ça ressemblait?
Sous les pavés, la plage. Alors, à Paris, les pavés ont volé. Parce que le mouvement a voulu s'inscrire tout de suite dans la tradition des Françaises, des barricades, de la Révolution. Tandis qu'à Neuchâtel, il n'y a aucun pavé.
C'est le problème, si je comprends bien.
Mais ce qu'il y avait, c'est que la vie était trop pavée. Vous voyez ? Trop ordonnée. Et sous les pavés, la plage, c'est l'espoir d'un nouvel espace. Vous voyez ? Et nous ne voulions pas fermer l'université, mais l'ouvrir davantage. Vous voyez ? Et à l'intérieur d'elle-même, parce que figurez-vous que les scientifiques parlaient peu aux littéraires et réciproquement, que les profs de littérature ne connaissaient pas ce qui se disait dans des cours admirables de linguistique et de logique. Il y avait 6% de fils d'ouvriers, 14% de femmes, et donc nous voulions aussi ouvrir l'université pour qu'elle dialogue mieux avec la cité et puis qu'elle accueille en son sein d'une manière qu'elle envisage d'accueillir des personnes qui n'ont pas forcément fait une maturité, mais qui pourraient suivre des cours. Et puis, il y avait aussi, évidemment, la participation entre les instances de l'université et puis les étudiants. Les étudiants, pourquoi ne seraient-ils pas, non pas à eux de diriger, mais au moins qu'il y ait des dialogues. Voilà ce que c'était à Neuchâtel.
Monsieur Mieville, que vouliez-vous ? Et qu'avez-vous obtenu ?
D'après ce que je viens d'entendre, rien. Rien, malheureusement. Non. Ce que nous voulions, c'est d'être
Mais
capable...
vous pouvez nous décrire d'abord l'ambiance. Ça ressemblait à quoi ?
Il y avait un sentiment très positif. Il y avait une très belle mobilisation. Mais une mobilisation très, très diverse, parce qu'il y avait ceux qui étaient au niveau de l'émotion qui participaient à la chose. Il y avait ceux qui plaquaient un schéma révolutionnaire sur le mouvement qui se passait. Il y avait des indifférents un peu intéressés. Il y avait les fâchés. Il y avait beaucoup de monde, mais la couleur de cette diversité était très, très grande. Donc, il y avait un côté enthousiaste. Il faut le reconnaître. Et j'ai découvert ce que c'était un mouvement de masse. Je me souviens, il y a des pavés à Neuchâtel. Du reste, j'en ai ramené un de Paris, que j'ai laissé au décanat. Je ne sais pas si tu l'as retrouvé. Mais je me souviens, nous étions tout un groupe. Il suffisait que quelqu'un lance... Bon, ça pouvait être CRSSS, mais ça pouvait être tout à coup plus de crème dans les millefeuilles. Et tout le monde répétait. Ou bien, tout à coup, on va renverser le tram qui passait au Seillon à l'époque. On s'est tous mis, puis on l'a fait. Il y avait des gens qui étaient à l'intérieur. Donc, il y avait un côté à la fois émouvant parce qu'on croyait à la chose, on était très, très, très naïfs. Il y avait un côté aussi manipulation de masse qui était très, très grande, qui était intéressant. Mais de ma mémoire, il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu de violence, pas du tout, pas comme à Paris. Mais il y avait un certain enthousiasme qui correspondait à un besoin de voir les choses changer à l'université en termes de dialogue. J'évoquais sur un zoom tout à l'heure. C'était grave qu'on nous réponde comme ça. Ou bien quand je demandais à un homme que je ne citerai pas, puisqu'il est toujours vivant, pour quelle raison cette structure mathématique avait cette configuration et pas une autre, la réponse était parce que c'est comme ça. C'était inadmissible. On avait 20 ans, 21, 22 ans. C'était des réponses inadmissibles et on ne comprenait pas que des gens de réputation intelligente, sensée, reconnue internationalement, puisse vous répondre. Il y avait un mépris à notre égard qui était très, très grand. Mais pour reprendre un mot de ce que de la manière dont j'ai vécu cette mobilisation, c'est un enthousiasme très grand de ceux qui y ont participé, avec une foi peut-être un peu trop naïve.
Est-ce que vous diriez que 50 ans plus tard, on manque d'enthousiasme ?
50 ans plus tard, à vous entendre tout à l'heure, je m'aperçois qu'on vit dans un monde très tumultueux aussi, très, très violent. Mais je crois que les conditions ont changé. À l'époque, on ne voulait pas rester, on ne voulait pas préserver les configurations de l'université. On voulait en sortir, on voulait quelque chose d'autre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque fois qu'on propose une réforme, c'est non, on ne veut pas bouger, que ce soit en France ou à Neuchâtel ou à Genève, je veux dire. Donc, ces configurations-là ont changé. Il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que en 68, il ne faut pas l'oublier, il y avait des problèmes salariaux, il y avait des problèmes d'inégalité, mais il y avait un potentiel économique extrêmement favorable, hein, qui aurait été très propice à des changements en douceur, qui n'ont pas été effectués. Tandis qu'aujourd'hui, on voit l'université de Neuchâtel, elle pleure avec émotion, parce qu'elle croit encore à son rôle, à ses objectifs, mais elle n'a plus les moyens de vouloir réaliser les projets qu'elle pourrait honorer.
Quel héritage de 68, selon vous ?
Le ?
Quel est héritage de 68, selon vous ?
L'héritage...
Est-ce qu'il y en a un, d'abord ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas penser comme ça. Un événement historique, c'est un accident de l'histoire qui arrive, qui a des raisons d'exister et qui a des conséquences. Mais ces conséquences ne sont pas liées à l'unique fait révolutionnaire. Il y en a d'autres, sociaux, culturels, religieux, etc. Et je pense qu'on n'a pas de... On n'a pas un thermomètre capable de calculer de manière intrinsèque quels ont été les apports de 68. Mais je pense qu'effectivement, ça n'a pas été du tout inutile. Il y a une certaine importance qui a contribué à élargir, à ouvrir sur des dialogues, à accepter d'entrer en matière sur des inégalités, etc. Donc je pense que cet héritage 68 a contribué en partie avoir cet héritage par rapport à ce qu'on devrait vivre aujourd'hui, qu'on ne vit pas. On parlait d'égalité homme-femme, ce n'est pas vrai, elle n'est pas réalisée, on le sait au niveau salarial, on le voit ici, elle n'est pas réalisée. On vit une période maintenant où, là, en 68, il y avait une discrépance étonnante entre le 10% des gens, des salaires les plus élevés par rapport au reste de la population. Alors, ça a été corrigé par 68, mais cette correction a été corrigée. Et aujourd'hui, on retrouve que quelques pourcents de la population ont 85% du patrimoine mondial. Donc on arrive à une situation explosive pour d'autres raisons. Mais je pense que 68 a été un événement important par rapport à cette prise de parole. Nous sommes là, nous pouvons vous parler, nous exigeons cela, nous voudrions bien que les choses se passent. Et c'est vrai que les changements sont un peu regrettables. C'est vrai que l'université, les modifications à l'université ont été plus lentes que peut-être par rapport à la vie citoyenne, où les choses... Je me souviens, avant d'enseigner à l'université, j'ai enseigné quelque temps au collège ou au lycée, j'ai été surpris de voir que là, malgré ce qu'en pense Luc Ferry, qui pense que tout a été inutile, non, les réformes, même si elles n'ont pas toujours été évaluées à leur juste mesure, elles ont été suffisamment importantes pour penser des réformes pédagogiques, de réintroduire la perspective piagétienne. À tort ou à raison, mais au moins on avait le courage d'envisager d'autres perspectives que le conservatisme peut-être aurait totalement fermé.
Oui, on peut rappeler au passage qu'en 68, sauf erreur de ma part, les femmes en Suisse n'avaient pas le droit de vote.
Et Neuchâtel, oui.
Alors peut-être un Neuchâtel.
C'est en 71 que.
Exact. Qui peut intervenir sur les relations qu'ont entretenues ou qu'entretenaient les 68ards entre hommes et femmes ? Parce qu'on a dit beaucoup de choses à ce propos. Il y a des témoins, oui, je ne sais pas. Mais... Allez-y, puis après je vous donnerai la parole, madame.
Oui. J'ai apporté, ici, c'est
un recueil fait par Le Monde sur mai 68, hein,
oui.
50 ans après. Et puis, vous avez Marianne qui conduit la manifestation. Vous voyez tous. Eh bien, c'est une très belle photo, mais à mon avis, c'est resté une photo, parce que c'est le départ de la problématique, mais la lutte est encore amenée. Mais je dirais qu'il y a eu aussi quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que il y a une formule qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et puis, il y a un slogan de mai 68 qui dit « Aimez-vous les uns sur les autres ». Il y a une similitude, mais il y a aussi une différence. Et autre chose, il y avait un film qui passait « L'amour à 16 ans, interdit au moins 18 ans ». Vous voyez, hein ? Donc, il y a quelque chose qui s'est quand même qui a commencé de germer, mais voilà, ça doit continuer encore.
Mais on a beaucoup parlé à ce propos de liberté sexuelle. On n'avait pas l'impression quand même que finalement, dans les relations hommes-femmes, elles n'avaient pas beaucoup évolué, contrairement à ce qu'on a pu croire. On a fait des femmes, des jeunes filles, des égéries, etc. Mais finalement, c'est un Corel qui apportait le café le matin.
Ça m'étonnerait. Mai 68, je pourrais caricaturer ça en disant... les hommes refaisaient le monde et les femmes cuisaient les spaghettis. Mais pour les femmes, je pense quand même que c'est la libération sexuelle qui a été un moteur très important. Parce que tout d'un coup, on a commencé d'avoir accès à des relations avec les hommes de manière égalitaire. Celles-là, elles ont existé. Mais sur le plan politique, les femmes ont eu du mal à être reconnues. Elles en ont toujours. Donc l'égalité, c'est vrai, il n'y a aucune femme là. Ça dit ce que ça dit. En mai 68, il y en avait plein des femmes. Mais ce qu'elles ont vécu, c'est une libération. Elles ont pris conscience que d'être femme, c'était une force aussi. Et elles se sont mobilisées autour de ça. Et là, je pense vraiment que... ça a été la libération sexuelle qui a été le plus fort moteur pour les femmes. Et la libération de la parole politique, elle s'est fait plus lentement parce que la manière dont les hommes fonctionnent, elle est relativement hermétique. Elle est structurée par les hommes pour les hommes. Et voilà, donc on n'a pas pu s'imposer par là. On n'a toujours pas pu s'imposer complètement. Et puis finalement, ce n'est pas s'imposer qu'il faut, c'est faire les choses ensemble. Alors l'égalité, ce sera ça. Mais ce n'est pas tout à fait là encore.
Merci de votre intervention. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, alors justement, j'ai peut-être pas eu un discours qui a fait un grand écho avant, mais ce que j'aimerais dire, c'est que justement, il y a encore beaucoup de choses qui se passent à l'université. Comme vous le savez, actuellement, on a un rectorat qui est composé 100% d'hommes. C'est grâce à l'engagement des étudiants au sein d'un nouvel organe qui a été créé, l'Assemblée de l'université, qu'on a une jeune femme issue de l'immigration qui préside cet organe. Donc il faut savoir que c'est pas parce que tout n'est pas visible, c'est pas parce que on n'est pas dans la rue avec des pancartes écrites ou blanches, j'entends à chacun sa méthode, mais grâce à l'héritage de 68, ce qu'on a obtenu quand même, c'est beaucoup d'outils institutionnels. Et ces outils institutionnels, c'est là, en fait, mon propos, c'est qu'il y a presque un piège aussi, à certains égards, d'un point de vue visibilité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font derrière les murs de cette université et que les étudiants et les étudiantes ne sont pas insensibles au combat. Je crois quand même...
que le nombre de professeurs femmes a augmenté depuis 68, il faut quand même le constater. Là, je vois dans la salle qu'il y a deux représentantes de la FEN, du comité de la FEN, qui sont là aujourd'hui. C'est une préoccupation permanente qu'a eu la FEN sur ces... Bah, je peux pas témoigner... en tout cas, je sais sur ces 10 dernières années que toujours avoir une représentation qui soit équilibrée. D'un point de vue institutionnel, c'est aussi une politique qui est constante. Il y a une commission de l'égalité qui penche là-dessus tout au long de l'année, mais effectivement, ça passe plus par le jour du droit des femmes, faire des manifestations pour revendiquer ça pour les étudiants. Ça passe aussi par un travail institutionnel, j'ai presque envie de dire quotidien, qui est fait aussi. Et je reviens.
Attention, mesdames, messieurs, parce que vous êtes très nombreux et très nombreuses. Vous avez un panel de spécialistes, de gens qui ont vécu les événements, avec lesquels je souhaiterais que vous entriez en conversation. Alors, le temps de préparer la première question, parce que c'est un peu compliqué, donc je poserai la deuxième, non ? Alors, allez-y, très bien, formidable, très bien.
Pas du tout, monsieur Ferla. On a parlé d'histoire, mais l'histoire, c'est quelque chose de contemporain, et la lecture, la présentation qu'a fait monsieur Béguin est quelque chose qu'un ancien 68art ne peut pas laisser passer. C'est absolument terrible de résumer le parcours politique de Danny Cohn-Bendit à son soutien à Macron, sans parler de son opposition à Mélenchon, sans parler de son opposition à Marine Le Pen, et sans parler en fait de la situation française qui explique pourquoi il a choisi de choisir Macron plutôt que d'autres qui auraient été nettement pires. Ensuite, de dire que les anciens 68ards sont tous au Rotary, ben non, c'est pas vrai, j'en suis un. Ensuite, ensuite, de dire que ça n'a rien changé dans la société, je suis absolument pas d'accord. On peut pas compter l'avancée de l'histoire avec une pensée économiste en disant voilà, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, etc. Il s'est passé quelque chose de fantastique au niveau de l'imaginaire, au niveau de la vie de beaucoup de personnes, et la contestation de l'autorité, la contestation de l'armée, la contestation des deux blocs, États-Unis contre Russie. Moi, je suis d'une génération où on a été contre la Russie, on a été contre le PCF. Et c'est vrai que j'ai des camarades qui se sont mis à genoux devant Mao. Ben, on trouve que moi, j'en faisais pas partie. Chacun son chemin, comme dit l'autre. Il y a eu des dérives, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter les gens comme on les traitait en 1968. Voilà.
Monsieur Béguin, vous êtes interpellé. Vous souhaitez, j'imagine, ajouter quelque chose ?
Oui, moi, ce que je voulais dire, ce que j'aime pas, dans l'héritage de mai 68, c'est la contestation de toutes les hiérarchies, la contestation des repères traditionnels, qui font que nous sommes dans une société aujourd'hui extraordinairement fragilisée. Alors, je ne suis pas un conservateur pur et dur. Je sais bien que la société doit évoluer. Mais je crois plus à la réforme qu'à la révolution. Mais aujourd'hui, on conteste, et ça, c'est un héritage de mai 68, on conteste l'autorité de l'enseignant, l'autorité du médecin, l'autorité ecclésiastique, bien entendu, mais pour ce qu'il en reste, l'autorité de tous ceux qui ont des responsabilités à prendre, et chacun, aidé par Wikipédia, se sent docteur en tout et capable de juger de tout et de ne plus avoir un respect minimum pour ceux qui détiennent un certain savoir. Et ça, disons que c'est un élément dissolvant de la société que nous payons aujourd'hui quand même assez cher. C'est ça que j'aime pas. Alors que on est vécu jusqu'en 68 avec des structures un peu figées, avec un conservatisme pesant, notamment dans l'organisation de l'université, sans doute. Et les choses devaient évoluer. Mais la radicalisation de la liberté, comme le dit Le Goff, le grand sociologue qui a été un anarcho-situationniste à l'université de Caen, et qui en est bien revenu dans les derniers bouquins qu'il a écrits, ça, je peux pas y adhérer. Voilà ce que je peux répondre.
Une intervention
ici. Mais je voulais dire quand même que il y a eu une réaction quand même, je trouve, intelligente dans le canton de Neuchâtel. C'est la loi de réorganisation universitaire qui a été entreprise par le Conseil d'État et qui a amené quand même des progrès, la création du conseil d'université et la participation des corps intermédiaires et des étudiants dans les conseils de faculté. J'ai d'ailleurs été un des premiers élus au conseil de la faculté de droit. Donc, ça allait quand même dans un sens tout à fait positif et je pense qu'on peut arriver petit à petit par la réforme à des solutions beaucoup plus pragmatiques. Maintenant, on a parlé de la révolution, la libération sexuelle, etc. Oui, mais je pense que l'invention de la pilule y a été pour beaucoup.
En 67.
Et sa distribution.
Oui, il y a une intervention, monsieur.
Première chose, je voudrais signer, il y a 10 ans, on m'a demandé de faire pour le journal Solidarité un article sur le 40e anniversaire de mai 68 et ce qui s'était passé à Neuchâtel. J'ai consulté les archives de la bibliothèque pensant trouver les tracts multiples qui avaient été publiés. J'ai été très déçu parce qu'à l'époque, ces tracts, visiblement, n'avaient pas été conservés. Alors, je sais bien que, par exemple, le CARU, le Comité d'action pour la réforme universitaire, n'avait pas pignon sur rue, il n'avait pas de bureau, il n'avait pas d'archives, il n'avait pas de secrétariat. Donc, effectivement, ces documents sont un peu dispersés. C'est pour ça que c'est la dernière minute, parce qu'il y a 50 ans qui ont passé. Je lance un appel vibrant à tous les participants, de quelque bord qu'ils aient été, de regarder dans leurs archives ce qu'ils ont gardé de cette époque et puis d'en faire don à la Bibliothèque publique et universitaire qui a des dossiers spéciaux qu'on appelle 6R7R qui concernent tous les tracts des sociétés, des partis, des syndicats, enfin de multiples associations, parce que si effectivement on veut étudier ce qui s'est passé à Neuchâtel et puis ailleurs, il faut avoir les documents. Le seul document que j'avais trouvé, c'était le discours qu'avaient fait les étudiants, une équipe d'étudiants du CARU, quand ils avaient perturbé le 1er août 1968. Bon, maintenant, moi, ces précisions bibliothéconomiques faites, je voudrais venir sur quelques points. Je pense, et puis pour l'avoir vécu moi-même, même si j'étais pas Neuchâtel en 68, je pense qu'on vivait dans une société extrêmement bloquée, une société extrêmement autoritaire. Et de ce point de vue-là, je pense effectivement que les mouvements des 68 n'ont pas accompli tout ce qu'ils voulaient faire ou ce dont ils rêvaient. On peut discuter des revendications et des rêves en question. Mais les mouvements de 68 n'ont pas changé la société sur un certain nombre d'aspects, mais la société a changé. Je pense qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, ne seraient plus acceptables. Les exemples sont multiples, mais enfin, je pense que, notamment, dans la vie, les choses ont changé. Et puis, par exemple, c'est pas par hasard, à mon avis, que enfin en 1971, alors qu'en 59, il y avait une majorité contre le droit de vote féminin, il y a une majorité inverse qui s'est faite, et effectivement, qu'on a cessé d'être ridicule aux yeux de l'univers, sauf un personnel rôle intérieur. Bon. Alors, partant de là, quand je dis que nos rêves ou nos revendications ne sont pas totalement réalisées, moi, il y a quand même des choses que je ne peux pas laisser dire. D'abord, Cohn-Bendit n'était pas le leader de mai 68. Vous savez, ce qui donnait son prestige à Cohn-Bendit, c'est que dans les assemblées générales, il tenait le micro. Et puis après, il y a les médias, on cherche un leader, un chef. C'est dans les traditions. Mais disons, pour un Cohn-Bendit qui est devenu macroniste, ce qui prouve, comme disait le général de Gaulle, que la vieillesse est un naufrage, eh bien, il y a des tas d'acteurs de mai 68 j'en connais encore, qui sont restés fidèles à ce qu'ils pensaient. Peut-être qu'ils pensent plus tout à fait la même chose sur les formes, les méthodes d'action, mais sur le fond, la justice sociale, et puis effectivement l'émancipation humaine, ils pensent la même chose. Et puis, ça serait trop simple de réduire effectivement mai 68 à quelques personnes qui ont évolué, pas toujours de manière très positive. Et donc, effectivement, c'est important de dire qu'effectivement, l'action des individus, elle laisse des traces dans la société, même si cette action ne parvient pas à changer globalement la société. Et puis, juste une chose, quoi. Ben, quand même, quand je dis que la société était bloquée, et notamment à Neuchâtel, j'ai l'occasion de le constater, c'était extrêmement, je veux dire, les réactions ont été extrêmement dures. Et de ce point de vue-là, je suggère, s'il y a un étudiant en histoire qui s'intéresse, ça serait intéressant pour lui ou elle de faire une étude comparative sur ce qui était écrit sur les jeunes Neuchâtelois en 1831 par le constitutionnel neuchâtelois, qui était l'organe officiel du gouvernement royaliste, et puis ce qu'écrivait la feuille d'avis de Neuchâtel, où il y avait Elie Bauer, Malfol Frat, et puis René Bréchet, qui était la feuille d'avis de Neuchâtel, qui était, il faut le dire, le plus ancien journal contre-révolutionnaire de langue française.
Très bien, merci pour votre intervention. Il y a parmi vous un certain nombre de jeunes générations. Ça m'intéresserait vraiment très vivement qu'ils prennent la parole et qu'ils nous disent finalement comment ils considèrent cette période, ce que ça peut représenter pour eux, si ça ne représente absolument rien, si en réalité, quand Pierre vient s'emporter, dit « quand la France s'ennuie », on pourrait dire « quand la Suisse s'ennuie ». Est-ce que vous voulez pas prendre la parole pour nous dire un peu ce que vous ressentez ? Please.
Hein ? Oui, ça fonctionne. Bonsoir. Enfin, je parle en tant que voilà, je me suis pas mal engagée en fait dans la vie académique ces derniers temps. Je suis actuellement à l'Assemblée de l'université, donc organe qui est actuellement pour présidente une femme immigrée justement. Et je me suis aussi engagée au sein de la FEN. Et je suis actuellement vice-présidente et je m'occupe actuellement du Dicaster politique interne et logement. Je pense que ce que j'ai pu voir, en fait, dans le cadre de mes différents engagements, aussi dans le cadre de l'association d'étudiants en philosophie que je préside, que les femmes sont extrêmement actives. Les étudiantes sont très actives dans le milieu associatif. Il y en a énormément. Au conseil de faculté, ou bien d'autres organes, comme l'Assemblée de l'université. Ça ferait qu'il y a plus de femmes, je ne suis pas sûre, mais je crois. La FEN, on sera bientôt une majorité de femmes. Donc voilà, donc les femmes s'engagent énormément. Après, il y a ce problème justement de... Plus on monte dans l'échelle académique, moins on trouve de femmes. Je ne sais pas si ce problème, justement, si on appelle ça un problème, va pouvoir être résolu un jour. J'en ai aucune idée, je l'espère. Les mentalités doivent changer avant ça, et tous les biais implicites qu'on peut avoir autour de la femme, dont on n'est pas forcément conscient puisqu'ils sont implicites, il suffit en fait d'en prendre conscience. Et voilà. Et après aussi au niveau d'autres préoccupations de mai 68 qui concernaient l'écologie. La FEN aussi a fait un pas, donc la FEN, la Fédération des étudiants du Châtelois, a fait un pas aussi de ce point de vue-là, dans le sens où il vient d'être créé un nouveau dicaster durabilité pour aller en fait dans le sens en fait du plan d'intention et du rectorat qui veut mettre en œuvre certaines actions pour la durabilité. On a une association, enfin la semaine de la durabilité de Neuchâtel, dont on a le président juste ici, qui a beaucoup œuvré là-dedans. Donc voilà, il y a des préoccupations de mai 68 qu'on retrouve, des problèmes qui se règlent plus ou moins. Comme disait Ivan, il y a beaucoup de choses qui se font, on en parle très peu, mais les choses se font et avancent. L'héritage de 68, voilà, se constate de manière indirecte.
Autre point de vue, oui, monsieur.
Merci beaucoup. Donc voilà, Je ne sais pas s'il y a des gens plus jeunes que moi dans la salle. Je suis né en 1998 et j'aurai 20 ans à la fin de cette année. Très brièvement, ce que je voulais dire, c'est parler d'un sujet qui n'a pas du tout été évoqué encore. Et en fait, moi, je me posais la question, en fait, si dans un futur proche ou lointain, si des événements de ce genre, comme mes 68, devaient se reproduire, je me demandais si ce serait possible, en fait, parce que vous êtes sûrement au courant, mais il y a un phénomène qui est en train de progresser, c'est celui de la dictature du numérique. Donc, voilà, avec le monde de plus en plus connecté, et surtout les pays développés comme le nôtre qui sont extrêmement touchés. On s'échange beaucoup de données personnelles, on est beaucoup plus surveillé. On le sait peut-être pas beaucoup, mais on l'est extrêmement, on est extrêmement bien surveillé. Et du coup, je me demandais voilà si cette forme de pouvoir un peu invisible, moi je pense que ça me fait un peu peur. Je pense que ça peut paralyser beaucoup de choses. Et un mouvement comme celui qui a été mai 68, je pense qu'il peut être complètement, comment dire, un peu étouffé, un peu étranglé. Et voilà, je voulais un peu lancer ce sujet parce qu'on n'en a pas du tout parlé. C'est un sujet d'avenir, mais moi, je pense qu'il sera... comment dire ? Moi, je pense que cette problématique va arriver beaucoup plus vite qu'on croit. Et voilà, étant une des dernières générations, moi, j'ai eu la chance, j'ai grandi sans l'arrivée des smartphones, mais j'ai vu voilà, les plus petits qui nous suivaient à l'école, au collège, qui ont commencé à se développer avec tout ça. Et du coup, voilà, c'était pour lancer cette question, quoi. Merci beaucoup.
Le point de vue peut-être de l'historien, M. Tissot. On parlait d'ailleurs, M. Béguin rappelait tout à l'heure l'importance des radios à l'époque, notamment, ça me fait penser évidemment à Facebook et à d'autres moyens, Telegram, pour dire voilà qu'est-ce qui se passe, etc., les radios Europe 1, RTL. Mais pendant quelques jours, elles ont été interdites hein, par le pouvoir gaulliste. Elles ne pouvaient pas émettre. Sur la question, sur la question du numérique, qu'avez-vous envie
en
de...
En 1068 numérique. Oui. Non, mais vous soulevez un problème important, c'est l'impact de la technologie. Parce que 1068, c'est aussi l'impact de la technologie. C'est la radio, c'est la télévision, c'est des nouveaux médias qui s'imposent, des nouvelles formes de médias. Et le numérique, sans conteste, peut-être va aboutir à une révolution, soit on va se taire tous et on viendra comme George Orwell dans 1984. C'est-à-dire qu'il y aura un Big Brother qui va nous surveiller, ou alors il y aura une réaction, mais peut-être ces réactions ne seront pas identiques à celles de 1068, elles seront autrement. Et il y a déjà des réactions sur des événements précis. Obama a été élu, Trump a été élu. C'est une hypothèse, mais grâce au numérique, c'est-à-dire par des actions sur des réseaux sociaux. Donc, c'est déjà des forces qui sont en mouvement. Mais est-ce qu'il y aura une révolution, une émergence d'une réflexion pour casser ou pour contrôler, en tout cas pour essayer de mieux canaliser ces forces invisibles ? Alors là, je suis historien, je ne suis pas Madame Soleil. Enfin, voilà. J'ai déjà du problème avec le passé, grave problème avec le futur.
Y a-t-il Madame Soleil à cette table, Monsieur Stély?
D'un côté, Monsieur Béguin l'a dit, il constate qu'il y a une certaine déliquescence qui vient dans la société, qu'elle a. Mais d'un autre côté, il y a manifestement des durcissements qui sont en train de se faire. Quand vous pensez que les budgets militaires sont partout en augmentation, quand vous pensez que les phénomènes migratoires conduisent à que des milliers de personnes se noient, quand vous pensez qu'il y a dans plusieurs pays une montée de certains extrêmes très dangereux parce qu'on nie la qualité d'être humain à l'autre. Donc il y a quelque chose d'inquiétant, et la domination par le numérique, parce qu'il y a un effet de domination, c'est aussi un problème. Mais c'est la raison pour laquelle, quand je vois ces réalités, Je me dis, je suis tenté par dire, comme un slogan de mai 68, arrêtez le monde, je veux descendre. Vous voyez ? Mais d'un autre côté, je trouve M. Béguin, du même point de vue, je trouve M. Béguin, qui nous a dit qu'il était pessimiste, je le trouve encore bien optimiste. Vous voyez ? Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le plus important dans la vie politique qui veut essayer de construire quelque chose, eh bien, pour faire ça, il faut avoir la petite flamme espérance. Si vous n'avez pas la petite flamme espérance, eh bien, il faut descendre du train.
Merci. Merci de votre intervention. Prise de parole, monsieur. Un micro vient vers vous.
On a dit que M. Béguin était pessimiste. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste que lui. Je suis peut-être un des seuls dans l'assistance qui a quitté l'université pour aller dans la multinationale. J'ai été dans l'horlogerie, dans les assurances, dans l'alimentaire, dans les produits de beauté, etc. Et là, je pense que l'homme est mauvais et l'homme est un médiocre. Pas dans le mauvais sens du terme, mais disons, dans le sens peut-être de la loi de Gauss où on voit que tout va vers la moyenne. Et je dirais ceci, moi qui suis une personnalité autoritaire, je dirais ceci, c'est que, oui, mai 68, oui, le numérique, oui, tout cela, mais en fait, qu'est-ce qui est ? Quoi qu'on fasse, l'homme, dans ses globules, sera mauvais. Et là, je cite Marcel Pagnol dans Topaz, qui dit ceci, donc Topaz était un enseignant qui est devenu un grand homme d'affaires et qui reçoit de ses anciens collègues Tamise, qui est resté, lui, un modeste enseignant. Il lui dit ceci, « Tu t'effares, mon pauvre Tamise, mais je vais te dire un secret. Malgré les poètes, malgré les rêveurs et peut-être malgré mon cœur, Tamise, j'ai appris la grande leçon. Les hommes ne sont pas bons. C'est la force qui gouverne le monde et ces petits rectangles de papier gris bruissant, c'est la forme moderne de la force. Aujourd'hui, les monnaies virtuelles, tout ça. Et quand on regarde dans les chroniques de Louis XI, quand on regarde dans la révolution industrielle, quand on regarde les 302,2 billions de chiffre d'affaires d'Apple à la fin de l'année dernière, je pense que non. C'est dans nos globules, on est combinard, on est malhonnête et puis on est mauvais. Terminé.
Merci, 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 madame, oui.
Je suis consternée, monsieur. Et je voulais dire que peut-être que si les hommes font des constats aussi horribles, peut-être que les femmes sont là pour alimenter la petite flamme dont parle Francis Daly. Voilà. Moi, j'ai été pendant 8 ans de ma vie en Afrique. J'ai fait une interruption justement pendant les événements de mai 68 en Europe. J'ai regardé tout ça, je n'ai pas compris, parce que quand vous venez d'Afrique, vous ne comprenez plus la société européenne. Je suis repartie, mais à mon retour dans les années 70, à la fin des années 70, j'ai trouvé que c'était une société qui accueillait bien, en tout cas, les femmes. Moi, je voulais faire un peu de politique, je voulais continuer mes études à l'université, je voulais élever mes enfants, et j'ai trouvé que là, depuis ces années, la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment été contente de l'accueil et des possibilités offertes aux femmes. Voilà. Alors, je voulais juste le dire comme ça.
Qu'avez-vous découvert en Afrique ?
Ça, ce serait l'objet d'un long exposé. Moi, le principal trésor que j'ai découvert, et je le garde là, c'est la convivialité et le contact chaleureux avec des personnes différentes de moi, au niveau économique, à toutes sortes de niveaux, mais c'est ça que je garde, moi, du continent africain.
Et dans quel pays étiez-vous ?
J'ai été au Congo et au Rwanda, avant le génocide, heureusement.
Merci, madame. Madame, monsieur, monsieur.
Merci. J'avais 17 ans en 1968 et j'aimerais ajouter quand même une petite voix féminine. C'est vrai, la révolution sexuelle, c'est une chose. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que si les femmes faisaient les spaghettis à l'époque, elles doivent encore se battre de temps en temps pour ne pas les faire. Mais surtout, je crois qu'il y avait quelque chose qui s'est mis en marche. J'aimerais rappeler qu'en 1968, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, même si elle travaillait sans l'autorisation de son mari. J'allais à l'école en hiver, je n'avais pas le droit de mettre des pantalons. Et une fille qui se conduisait mal, comme on disait à l'époque, ce n'était pas forcément qu'elle était enceinte, mais peut-être simplement qu'elle était amoureuse d'un garçon qui ne convenait pas à sa famille. Il suffisait que quelqu'un dans la commune prenne cette femme et l'interne dans une maison de correction, dans des prisons aussi, et ça sans jugement. À partir de mai 68, je crois que le mouvement était parti. On n'a plus pu. Je crois que la position de la femme, juridique, sociale, le regard a forcément changé.
Merci.
Et
madame.
C'est dommage qu'il n'y a pas de femme à la table.
Merci.
Oui, en intervenant après beaucoup de gens, on m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds, mais je voulais quand même juste évoquer une ou deux choses. Sur les événements de 68, dans le cadre de l'université, j'aurais juste voulu mentionner le rôle du recteur, non pas Sørensen, mais Maurice Erard, qui me paraissait, dans mon souvenir, avoir joué un rôle en faveur du dialogue et qu'il était important peut-être de le mentionner. Sur les conséquences de mai 68, on peut discuter. Moi, je voulais justement évoquer certains reportages qu'on a vus à la télévision ces derniers temps dans ces commémorations, à quel point la société suisse, mais on parle surtout de la société française, était complètement bloquée. Vous venez, madame, d'évoquer le fait que les Français, on nous rabat toujours le fait qu'on a donné le droit de vote aux femmes un peu tardivement, alors qu'on est le seul pays dans lequel on a consulté les hommes pour le donner. Mais par contre, en France, on n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque, etc. Donc, je crois qu'il y avait une société véritablement bloquée à l'école et partout, et que la marmite a explosé. On a évoqué la révolution sexuelle, la pilule et tout cela. Je ne sais pas, 600 000 68, on aurait eu... On peut juger si c'est bien ou mal, hein, mais on aurait eu l'EVG quelques années plus tard par Madame Simone Veil. Donc, les conséquences sont quand même multiples et variées. Les échecs, par contre, me semble-t-il, c'est évidemment que dans un mouvement qui se voulait anticapitaliste, on voit bien que le capitalisme a au contraire pris une orientation encore plus rapide et un libéralisme encore plus échevelé, et en plus dans une extension à l'échelle mondiale. Ça, c'est un échec. L'autre échec, pour évoquer quelqu'un, un intellectuel qui a peut-être évolué encore de façon pire que, comme tu le dis Thierry, qu'Cohn-Bendit, c'est Régis Debray, qui dit, voilà, moi j'ai lutté pour les pauvres, j'ai risqué ma vie en Bolivie, etc., etc., on connaît son histoire. Maintenant j'ai compris, dans la lutte des classes, c'est les riches qui ont gagné et ils baissent les bras. Voilà, je voulais évoquer cela. Et justement, sur Cohn-Bendit, une remarque aussi, parce que j'ai pas à partager l'opinion concernant l'évolution négative de Cohn-Bendit. Je trouve qu'au contraire, en devenant macronien, dans une société qui, depuis 40 ans, de la gauche à la droite, n'a pas évolué et n'a pas su s'adapter, on voit, après une année de macronisme, que les ambitions de changement de ce pays-là commencent à se concrétiser d'une façon qui n'avait jamais été là. Et je crois que c'est bien conforme à ce que dit Cohn-Bendit maintenant. Il faut du changement, mais le changement, ça prend du temps. Donc je crois qu'on peut quand même rendre cet hommage à Cohn-Bendit pour lequel, comme toi, j'ai aussi un peu de tendresse. Merci beaucoup.
Merci. Une réaction peut-être à ces propos ici à la table ?
Oui, je voulais dire, quand j'ai parlé de l'itinéraire piquant du grand leader médiatique, c'est vrai, il y avait aussi Sauvageau, il y avait Gessmar, mais...
Il y avait Julie aussi.
Oui, mais c'est celui qu'on voyait parce qu'il a une présence, il est éloquent, il sait bien se vendre. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire à propos de Cohn-Bendit. Oui, quand je disais que Cohn-Bendit, c'était piquant de voir que le grand leader étudiant était devenu macroniste, c'est pas une critique envers Macron. Moi, je suis, vu l'offre politique française actuelle, je pense que c'est quand même la moins mauvaise. Hein, entendons-nous bien, je ne suis pas anti-macronien, mais je trouvais assez piquant que Cohn-Bendit se retrouve aux côtés de Macron. C'est tout ce que je voulais dire, mais je ne critique ni Macron ni Cohn-Bendit. Je constate simplement. Et puis j'aimerais dire aussi, au bénéfice de Cohn-Bendit, c'est qu'il a été un leader quand même responsable et qu'il a mis toute son énergie à contenir le mouvement étudiant. Parce que ça aurait pu très mal finir. Ça aurait pu finir comme à Gaza actuellement. Moi, vous savez, j'étais présent, j'ai vu les CRS m'ont chargé, j'ai vu comment ça se passait. Ça aurait pu être dramatique, mais Cohn-Bendit a toujours su jusqu'où ne pas aller trop loin, et il a eu la chance d'avoir en face de lui un préfet de police qui s'appelait Grimaud, et qui a aussi été très intelligent, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de massacre. Vous avez fait allusion à 7 morts tout à l'heure, c'est possible, mais par rapport aux forces en présence, c'est vraiment négligeable, parce que ça aurait pu être terrible. Hein, ça aurait pu être terrible. Eh bien, Cohn-Bendit a au moins eu cette intelligence, et d'ailleurs, ils se sont retrouvés en 2000, je ne sais plus, pour le 40e anniversaire, ils se sont tombés dans les bras l'un l'autre, Grimaud et Cohn-Bendit, et c'est grâce à ces deux personnes que cette révolte n'a pas tourné au massacre.
J'ai vu que M. Mieville prenait des notes, peut-être vous voulez intervenir.
Effectivement, moi je pense que Cohn-Bendit est un fameux stratège. C'est quelqu'un qui sentait effectivement les mouvements de masse et qui a su l'extérioriser et, comme tu l'as dit très bien, qui a su neutraliser effectivement des mouvements qui auraient pu conduire à des massacres. J'en suis convaincu, oui.
Allez-y, oui.
Ce dont Cohn-Bendit est le plus fier, dit-il, c'est quand il a vu dans la rue des panneaux disant « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Et je crois que c'est très important de remarquer cette phrase, d'une part parce que ça correspond un petit peu à ses engagements internationalistes de l'époque, mais surtout à ses engagements pro-européens de maintenant. Mais je crois que c'est à mettre aussi à son crédit.
Monsieur.
Oui, alors, si vous permettez d'abord peut-être deux mots, je dirais, comme homme, et puis après deux mots comme chef département une année après. Alors, comme homme, monsieur Tissot sait que je suis passionné d'histoire, je crois que ça commence, nous sommes d'accord, par l'objectivité. Il y a des faits historiques, on peut les aimer ou pas les aimer. C'est comme le débat stupide en France maintenant sur l'action française et Maurras. On peut détester Maurras, on ne peut pas nier que l'action française est un phénomène historique. C'est exactement la même chose. Alors, je laisse aux savants décider s'il faut mettre au crédit de mai 68 tout ce qui s'est passé depuis.
Ils s'en occupent.
Il y a eu tellement de choses. La révolution technologique, la chute du mur, la mondialisation, etc., etc., que je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer. Ça a peut-être été un départ de quelque chose, il ne faut pas exagérer. Alors, pour preuve, le canton de Neuchâtel à ce moment-là. Oui, le canton de Châtel, comme tout le monde, s'est intéressé en mai 68. Mais à quoi ? Il s'est intéressé, est-ce que le régime va tenir ? On peut être pour ou contre De Gaulle, mais est-ce que le régime va tenir ? Et les accords de Grenelle, dans un canton industriel où syndicats et entrepreneurs discutent ensemble, là, oui, on en a parlé. Mais on ne va pas tellement parler des cortèges des étudiants. Et l'État, comme vous dites, quand on est arrivé avec M. Erard, et puis alors avec M. Sorensen, on a fait la nouvelle loi. J'étais interrogé il y a quelque temps par une étudiante sur le problème de Schwarzenbach et l'initiative de l'UDC. Mais il faut commencer notre génération à expliquer à ces jeunes la transformation profonde du monde, sans ça, ils ne peuvent pas comprendre. Alors, l'état de l'instruction publique, à ce moment-là, c'était quoi ? La coordination scolaire, je suis entré en fonction, c'était le problème numéro un, la fédéralisation de Lausanne, qui est devenue les PFL, qui nous a été profitable pour la microtechnique, et des choses de ce genre-là. Pour la loi, le rectorat fort, le conseil d'université, les deux ont toujours leur valeur, la participation, mais même le général de Gaulle s'est un peu cassé la gueule sur la participation. J'entends, je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Alors, je ne crois pas tellement. Par contre, alors là où je viens à ce que M. Tissot disait quand il avait 15 ans, je crois à l'influence bénéfique ou négative, je ne me prononce pas, au niveau gymnasien et d'école secondaire. Et je crois que les débats, il y a d'anciens députés, que nous avons eus les années suivantes, concernaient plus le gymnase ou le cycle d'orientation et tous ces problèmes. Même dans un canton aussi progressiste industriel que Neuchâtel, d'imaginer pour les agriculteurs qu'il y aurait une école enfantine était encore un blasphème à cette époque. Il faut se situer dans ce cas. Et alors c'est pour ça que je dis... Il y a eu certainement des effets, mais je laisse alors à chacun juger s'il les considère comme positifs ou négatifs.
Sur ces questions, réplique peut-être de M. Tissot avant qu'on se sépare, parce qu'il est bientôt passé 19h30.
Mais je suis d'accord avec M. Jeanneret, c'est que peut-être on met beaucoup l'accent sur l'université, on oublie le gymnase. La première manifestation en Suisse, de mai 68, elle vient du Tessin, du lycée de Bellinzone ou de Lugano, je ne me rappelle plus, mais c'est des lycéens. Et qui voilà, reprennent des slogans. Et ensuite, il y a eu une diffusion dans les universités. Donc, enfin, pour moi, je reviens sur cet aspect générationnel. Il ne faut pas limiter le problème à l'université. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. Sur Cohn-Bendit, moi, j'aimerais juste ajouter... Il est stratège intelligent, mais il a aussi été utilisé par un certain média de, en quelque sorte, identifier mai 68 à quelqu'un. Et ça servait... Et même, j'ai entendu une interview par M. Rochebain de Cohn-Bendit dernièrement à la télévision. Et M. Rochebain lui a posé la question, mais qu'est-ce qui vous reste de mai 68 ? Il a dit une image. C'est celle où je regarde le CRS dans les yeux. C'est la seule chose, finalement, qui me reste. C'est-à-dire que cette image montre qu'une génération a regardé dans les yeux l'autorité. Et ce n'était pas simplement de détruire l'autorité, c'est ce qui me reste aujourd'hui, c'est d'interroger l'autorité. Et c'est pour moi une leçon qui est absolument essentielle, et c'est peut-être la seule que je retire de mai 68, c'est d'interroger l'autorité. Ce n'est pas forcément de la mettre en cause.
Merci de l'avoir rappelé, de l'avoir dit. Une question encore, oui, une intervention.
C'est plutôt une intervention, bonsoir. Par rapport au jeune homme à casquette et à la question, M. Furlag, vous avez posée à peu près après le premier tiers du débat, à savoir... Est-ce que vous trouvez que la jeunesse d'aujourd'hui est très active, très engagée, etc. Et aussi par rapport au numérique. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, elle n'a pas devant elle des grands épouvantails comme la guerre du Vietnam, comme la société sclérosée, etc., soi-disant sclérosée. On peut discuter. Elle a d'autres choses, beaucoup plus subtiles et beaucoup plus traîtres. Le shadow banking... Ce n'est pas une chose qu'on voit comme ça, mais qui existe et qui va très, très vite à la vitesse de la nanoseconde, le digital. Je pense qu'aujourd'hui, pour garder le slogan de Cohn-Bendit, l'imagination au pouvoir, je pense qu'aujourd'hui, un travail d'imagination serait d'interroger les outils qui innervent la société actuellement, outils électroniques, et de se dire comment peut-on utiliser ces outils à des fins sociales et non pas à des fins de réseaux sociaux qui sont une grande place du marché, mais à des fins sociales. Et là, il y a du travail à faire. Vous avez aussi dit, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'engagement, un petit doigt pour Ziegler et encore. Mais bon, il y a eu quand même Occupy Wall Street qui est parti en quenouille. Pourquoi ? Ce serait intéressant de savoir. Une dernière chose, n'oublions pas que si ici, dans l'assistance, il y a des anciens combattants de 68, ne sentons pas trop la naphtaline, parce que vis-à-vis, il y a des gens qui ont tiré les leçons de 68. Par exemple, la guerre du Vietnam, aujourd'hui, on sait très bien, le département de la défense aux États-Unis ne veut plus du tout que les journalistes aillent se promener comme ça sur les champs de guerre. On les embarque avec les tanks et on va voir ce qui va se passer à Bagdad, n'est-ce pas ? Donc, il faudrait analyser tout ça à la lumière de ce qui a été, de ce qui est possible et de ce qu'on veut faire du possible actuel. Je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur, sinon je suis à votre disposition après. Très volontiers, parce que je pense que c'est votre génération qui a une dernière chance. Les choses vont tellement vite qu'il ne faut pas se laisser prendre de vitesse.
Merci de votre intervention. Je propose qu'on s'y mette tout de suite, finalement, tous ensemble. Est-ce qu'il y a encore une question avant que je ne vous remercie de cette participation ? Oui, monsieur Miéville.
Oui, je veux quand même réagir au globule méchant. Hein, parce que si la méchanceté est génétique, je trouve qu'on excuse à ce moment-là les génocides qu'on connaît, je veux dire. Hein, si c'est génétique, alors on explique tout, on accepte tout. Moi, je crois plutôt à l'espérance, même s'il est parfois absurde, et qui nécessite Sisyphe. Voilà ce que je veux dire.
Eh bien, merci à toutes et à tous pour cette soirée. Oui, Yvan.
En fait, j'ai conclu un peu mon introduction sur le mot unisson par rapport à 68. Pourquoi ? Parce que l'université de Neuchâtel a connu une petite révolution, une nouvelle loi sur l'université qui a bouleversé son organisation, qui propose, dans le contexte neuchâtelois, vraiment un tout nouveau modèle en fait, d'établissement public autonome, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des institutions et puis certaines des évolutions vers lesquelles on va de la gestion du bien public. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'a pas eu une grande résonance sociale. D'autres institutions s'y sont intéressées parce qu'elles jalousaient un peu certains aspects, mais c'est là-dessus que je voulais juste conclure, c'est que l'unisson, c'est ça qui, moi, ce à quoi me fait penser 68, c'est qu'aujourd'hui, en 10 ans d'engagement associatif, c'est vrai qu'il y a peu de temps politique où j'ai pu voir que l'université a fait vibrer la société et qu'on a pu vraiment faire un pas en avant de manière coordonnée ou parallèle sur des grands sujets. Voilà.
Merci à tous. Oui, madame. Oui.
Un mot, oui. Un mot qu'on n'a pas entendu, c'est rock'n'roll.
C'est ?
Rock'n'roll.
Merci. Merci pour votre participation, pour cette soirée, pour ce débat. J'aimerais vous signaler un livre qui vous intéressera sans doute, c'est « Les archives du pouvoir » qui est paru chez l'Iconoclaste. Et c'est un livre très intéressant parce que les archives se sont ouvertes et on retrouve un certain nombre de dossiers à la fois de la police, du gouvernement français de l'époque et des étudiants qui sont à la fois publiés et commentés dans ce livre. C'est un auteur, c'est un collectif. Bonne soirée. Merci.